Bonjour et bienvenue dans la deuxième saison de Everything Happens for a Reason, le podcast qui aborde l'aspect entrepreneurial des métiers de la création. Je suis Lily Bonnet, business coach, consultante et formatrice en management. Entre coaching, mentorat et consulting, j'accompagne les créatifs dans leur positionnement et leur développement. Qu'ils soient entrepreneurs individuels ou entourés d'une équipe déjà constituée, ils font souvent face à des problématiques assez similaires. Ce qui m'anime, c'est de soutenir, booster et donner des clés pour grandir et faire grandir. J'avais envie de leur donner la parole. Alors le 15 de chaque mois, j'accueille dans ce podcast un ou une artiste, quel que soit son médium de prédilection, ou tout autre acteur de leur écosystème. Même si l'on retrouve évidemment la créativité en filigrane de toutes leurs décisions et de leur parcours, nous ne parlerons pas ici de processus créatif. Nous échangerons surtout sur le management, les challenges, la stratégie ou la communication. En bref, comment les créatifs entrepreneurs peuvent se déployer. Pour cette nouvelle saison, j'avais envie de vous faire un cadeau. Je vous présente Grégor Schulz, mon ostéopathe. Je connais Grégor depuis plus de 15 ans et j'avais envie d'aborder avec lui l'écoute de soi, le bien-être, la santé physique et donc mentale. Et j'avais aussi envie de comprendre comment il a développé sa patientèle, en commençant dans le monde de la mode. Grégor et moi, nous avons un point commun. Nous travaillons notamment la posture, lui au sens propre et moi au sens figuré. Au fil de notre discussion, j'ai fait le parallèle entre nos approches respectives et aussi entre sa position d'entrepreneur individuel et celle des créatifs entrepreneurs qui font face au même challenge et doivent saisir des opportunités. Si j'ai intitulé cet épisode « Sortir du cadre », c'est parce que j'ai découvert, grâce à cet entretien, que ce qui a permis à Grégor d'en être là où il en est aujourd'hui, tant personnellement que professionnellement, c'est justement parce qu'il est régulièrement sorti du cadre, pour mieux s'aligner, se recentrer et s'ancrer. Bonjour Grégor.
Salut Lily.
Ça va?
Oui, très bien. Et toi?
Moi, super. Ça me fait très bizarre d'être là et de pas du tout venir pour que tu me soignes.
Bah oui.
Donc, j'ai pris mes petites habitudes en rentrant, pas faire de bruit. Puis en fait, non, tiens, pour une fois, je peux faire du bruit.
Aujourd'hui, c'est toi la patronne.
J'aime bien. Alors, je vais commencer par planter le décor. Parce que donc, on est 15 rue Béranger dans le 3e. Dans le haut marais, comme on dit. Et quand on pousse la porte, on arrive dans un petit, une petite oasis, en fait. On arrive devant ton cabinet, il y a des plantes partout dehors, c'est magnifique. Et on sent vraiment qu'on est là pour kiffer, en fait. Même si toutes les manipulations ne sont pas forcément agréables parfois.
J'avoue.
Mais, voilà. Mais on sent que dès l'extérieur, en fait, et je trouve que ça, c'est très important. Moi qui ai fait beaucoup de retail, c'est-à-dire j'ai travaillé dans les boutiques, etc. C'est vrai que dès le trottoir, dès la vitrine, on est dans l'univers. Et je trouve que chez toi, c'est la même chose. Dès l'extérieur, on est chez toi, on comprend le cadre, l'intention que tu as mise pour le visiteur. Et donc, là, on est dans ton cabinet, parce que tu es ostéopathe. On va beaucoup en parler, évidemment. Et dans ton cabinet, il y a évidemment une table, table
de pratique.
De pratique, ouais. Voilà. Beaucoup de livres. Il y a aussi un crâne. Il y a un lavabo fabuleux. 50s même, hein, il est 50s.
30s à 50s, on ne sait pas exactement. J'ai pas eu toutes tes infos.
On ne sait pas exactement.
Au moins 50 en tout cas.
Mais il a une histoire parce que tu as été le chercher dans une maison qui est de tes parents, non ?
Oui, qu'ont acheté mes parents en Charente-Maritime. Et on cherchait avec ma femme un lavabo. Et il n'y en avait qu'un qui en valait la peine, c'était celui-là. Donc j'ai demandé aux acheteurs de le racheter. Et ils me l'ont filé, en fait.
Ouais, il est trop beau. Et il a ce vert. Ce vert mint, ce vert menthe sublime qu'on aime beaucoup. Voilà.
Qui est très caractéristique de la Charente, justement. Les volets, etc.
Ah oui, c'est vrai, en plus.
C'est très présent là-bas.
Et donc, voilà, il y a des Vélux, on a le ciel qui est très proche. Et évidemment, je vais commencer par la question, signature de ce podcast qui s'intitule « Everything happens for a reason ». Et donc, j'aimerais savoir ce que ce mantra, qui est le mien, évoque pour toi.
Alors, si, parce que tu parles de la maison, je commencerai par ça en premier lieu. Ça faisait 3 ans que je cherchais à acheter mon cabinet avec ma femme. C'était le projet qu'on avait mis en place tous les deux. Et j'avais un autre, je vais essayer de faire court, mais une autre possibilité qui m'est tombée, qui a lâché, quoi. Ils m'ont planté à la dernière minute, de l'autre côté du canal, là. Et j'ai été hyper déçu. Et m'est revenue une phrase du Dalai Lama qui était que toute mauvaise nouvelle peut s'avérer être une très bonne nouvelle. Et sans ça, j'aurais jamais trouvé cette maison.
Mais voilà.
Et pour revenir à ce que tu me disais, à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que quand on est venu visiter ces lieux et que la porte cochère s'est fermée derrière moi et que le silence s'est installé, je me suis dit, faut que ce soit là, quoi.
C'est là.
Ça a été long. J'ai chopé la proprio, je ne l'ai plus lâché jusqu'à ce qu'elle finisse par me le vendre, à nous le vendre, parce que grâce à ma femme aussi, ouais, beaucoup.
Ouais. Comment elle s'appelle ta femme ?
Dounia.
Et Dounia, en fait, elle est maquilleuse,
ouais,
professionnelle.
Oui. Ouais. Travaille avec Pat Magrat et elle est en plein dedans, là.
Ah bah voilà. Et donc, tu es déjà dans cet univers très artistique, finalement.
Oui.
Et avant de parler de cette vocation, moi, j'aimerais qu'on retrace un petit peu ton parcours. Parce que c'est vrai que normalement, dans ce podcast, j'accueille plutôt des designers, des artistes ou des personnes qui contribuent au soutien des métiers de la création. Et je trouve que toi, tu soutiens justement énormément parce que tu travailles avec pas mal de créateurs. Enfin, on va faire un peu de name dropping après, évidemment. Mais c'est vrai que je trouve que grâce à toi, on arrive justement aussi en tant qu'accompagnant, comme je le suis, en tant qu'entrepreneur, artiste, etc. Ben, on arrive à avancer et à soutenir nos propres activités aussi grâce à notamment l'ostéopathie ou plein d'autres pratiques. Après, chacun choisit en fonction de ses besoins, en fonction de ses feelings. Mais c'est très important. Donc, tu es là pour moi pour ça. Et aussi en tant qu'entrepreneur individuel, parce que tu l'es aussi. Tu es thérapeute, mais tu es entrepreneur. Mmh. C'était ça qui m'intéressait aussi dans le fait de t'interviewer, avoir cette discussion ensemble sur tous ces sujets. Alors, comment est-ce que tu en es arrivé à l'ostéopathie ? Parce que je dis que tu n'es pas artiste, mais en fait, tu l'es un peu quand même.
Mais en tout cas, je m'y suis tenté, si je puis dire.
Raconte-nous.
Je me suis laissé tenter et j'ai fait beaucoup de musique. Mmh. Et j'ai fait des allers-retours entre ces deux métiers, en fait. Sauf qu'il y en a un qui ne m'a jamais apporté d'argent. Et celui-là,
la musique,
qui était
donc
ma vraie vocation. Ouais. La musique, c'était une expérience. C'était un... en gros, pour faire simple, une fois que j'avais le bac, pendant ma terminale, je me disais, soit je deviens médecin ou kiné, soit je fais de la musique. Et médecin, kiné, ces deux trucs-là ne me parlaient pas.
À cause des études notamment,
ouais,
ou
du cadre. des concours qu'il fallait faire, de l'état d'esprit qui ne me plaisait pas du tout. Et puis j'avais 18 ans et puis voilà, je voulais faire de la musique, quoi. Donc j'étais batteur et j'ai fait 2 ans de batterie. Conservatoire avec un grand monsieur du jazz, George Paczynski. Et voilà, j'ai beaucoup bossé la batterie.
T'as bossé en studio, t'as fait des albums ?
Non, j'ai jamais fait d'album, j'ai jamais rien produit en fait. Mais j'ai fait des projets qui m'éclataient. À l'époque, j'étais encore jeune, je travaillais vraiment la batterie. Enfin, je voulais devenir musicien, quoi. Mmh. Et avec toutes les sueurs, toutes les sueurs que j'ai pu donner, mais au bout de... C'était quoi ? C'était l'automne suivant, donc pendant ma deuxième année de musique, j'ai une amie avec qui je faisais de l'équitation qui avait commencé l'ostéopathie. Et je me rappellerai toute ma vie de ce moment-là où j'étais en bas chez mes parents, au téléphone avec elle. Et elle m'a dit, écoute, j'ai commencé un truc et je crois que ça va te plaire. Et elle m'a expliqué. Et je me rappelle regarder les feuilles dehors d'automne et je me suis dit, ben voilà, ça c'est mon métier.
C'est beau.
Ouais, c'était une évidence. Alors après, l'être humain est compliqué. Je me suis inscrit dès l'année suivante pour faire des études.
Donc ça, c'était toujours en Charente ?
Non, en fait, la Charente, c'est vraiment une maison de vacances. Là, je suis en Île-de-France, dans l'Essonne. Okay. Moi, je suis un gamin de l'Essonne, en fait. Et de Meudon, parce que mon école était là. Mais c'était un peu comme un appel et j'ai fait mes recherches. Mon père, hyper enthousiaste, évidemment. Il va enfin faire un truc sérieux. Lui qui a une grande sensibilité, mais quand même, c'était difficile à supporter, quoi. J'ai trouvé des études. À l'époque, c'était usage illégal de la médecine.
C'est ça, c'était pas encore reconnu du tout.
Ça m'allait très bien.
Bah justement,
j'avais mes jeunes dreadlocks poussantes, je faisais mon rebelle et que ce soit usage illégal de la médecine, c'est très bien. Ça nourrissait mon côté antisocial ou je ne sais pas quoi dire. J'écoutais Bob Marley et puis voilà quoi.
Et alors à partir de quand l'ostéopathie a-t-elle été reconnue
En 2002.
Ah, c'est hyper Kouchner. Récent en fait.
Ouais. C'est 2002. Ça fait 22 ans. Mais ça fait quand même 22 ans.
Ouais.
Mais il n'y avait pas de cadre juridique, il n'y avait rien. C'était juste plus un usage illégal de la médecine.
Okay.
Et en 2007-2008, ça a été légiféré. Quoi.
Ok, donc là maintenant, il y a un cadre beaucoup plus précis, justement,
très
pour
précis,
exercer le diplôme nécessaire, etc.
Voilà, il fallait être agrémenté.
Voilà. Okay.
Ça a été toute une aventure.
Et l'agrément, une fois que tu l'as obtenu, il est acquis ?
J'ai appelé mon père.
Tu peux faire un bac chiche. Non, mais une fois que tu l'as obtenu, l'agrément, il est acquis ou est-ce qu'il faut le renouveler parce
Non,
qu'il
y a pas... il est acquis.
Okay,
enfin, parce que y a des ça peut changer, hein, mais effectivement, dans d'autres pays, alors en Allemagne, il faut que tu sois Heilpraktiker, c'est-à-dire praticien de santé.
Mm-hmm.
Donc, il faut que tu apprennes toute une base. En France, c'est beaucoup plus simple. Ils ont agrémenté toutes les écoles. Ça a fait un énorme bordel parce qu'on est passé, je crois, de 15 à 70 écoles. Et du coup, on est en surnombre, ce qui est violent pour les jeunes diplômés. C'est compliqué.
Tu vois, tu parlais de musique. Mon mari, Philippe, est musicien. Et c'est vrai qu'on se rend compte aussi que de nos jours, il y a de plus en plus de musiciens. Il y a de plus en plus d'écoles. Je trouve que toutes ces, on va dire à peu près, 20 dernières années, 20-30 dernières années, toutes les pratiques déjà artistiques, donc la musique, même moi qui travaille beaucoup avec des architectes, designers, architectes d'intérieur, les écoles, il y en a de plus en plus aussi. Tout est beaucoup plus ouvert, mais donc forcément, ça crée beaucoup plus de concurrence, ce qui peut être très, très compliqué aussi. Et je trouve que ce soit l'ostéopathie, l'acupuncture, toutes ces, ce qu'on appelle les médecines douces,
alternatives,
douce, c'est pas forcément doux, parallèle, voilà. Je trouve que c'est quand même plutôt du bouche à oreille en général. Est-ce que toi, c'est comme ça aussi que tu as commencé? Qui a été ton premier patient? Comment tu as vraiment commencé c'était pas ici, c'était dans un autre cabinet. Tu en as même eu plusieurs entre-temps. Hein.
Alors après, tout dépend ce que tu appelles patient, mais mon premier patient, c'est un pote.
Un peu un cobaye,
ça, c'est
alors.
Quand je faisais de la musique, c'était carrément un cobaye. Et j'ai expérimenté beaucoup avec lui. Mon père.
Mm-hmm,
bon, ça, c'était un truc assez fort parce que... Je lui avais promis que je m'y remettrais et je m'y suis remis et je l'ai guéri d'un lumbago chronique qui durait depuis des années.
Je savais
que c'était assez fort ça. Et puis c'est pour ça que je te disais que c'était le premier que j'ai appelé quand j'étais agrémenté. J'ai dit bon, ça y est maintenant.
Ouais.
Je suis allé au bout du chemin quoi.
Ouais.
Même si ce n'était que le début d'un certain chemin en tout cas.
Bien sûr.
Du côté professionnel. Et c'était quoi ta question?
Donc, ton premier patient qui t'a payé.
Absolument.
La bascule finalement.
En fait, pour continuer ma petite histoire, c'est j'ai fait mes études et j'ai arrêté un an avant. J'ai pas fini avec le diplôme d'ostéopathie.
Décidément.
Ouais, je te dis. Bien
sortir du cadre.
Ouais, c'est ça. Et enfin, quelque part, c'est clair. Finalement, je suis retourné à la musique. Et pour faire des projets avec des amis, on faisait beaucoup de drum and bass. Moi, je jouais de la batterie électronique. C'était les années 90.
Drum and bass,
donc
à fond.
On était à fond là-dedans.
C'était l'époque.
Et c'était des projets formidables. Hein. On s'est éclatés. On faisait de l'électro sur scène, enfin bref. Et j'ai fait ça pendant 5-6 ans. Mais l'ostéopathie m'a jamais lâché. Cet ami que je traitais et mon père, c'était à cette époque-là, parce que j'avais déjà développé ma main, quoi. J'avais déjà travaillé ma façon de bosser, qui venait vraiment du début de mes études. Et on reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure. Et puis, au bout d'un moment, ma femme en avait un peu ras-le-bol de galérer. C'est bien d'être en couple. Ouais. C'est une belle inspiration.
Ça, c'est vrai.
Et elle m'a dit, écoute, fais des massages. Il se trouve qu'à l'époque, pour gagner des sous, je conduisais des mannequins pendant les défilés. Elle m'a dit, vas-y, développe, quoi. Et je suis allé voir un ancien prof. Pour faire simple, en fait, finalement, il m'a offert ce petit cabinet que tu as connu, son fenêtre tout petit, espèce d'ancien ancien local à poubelle. faut ça pour commencer.
Qui était dans le vers
dans
vers
le 8e,
vers Saint-Lazare,
ouais,
Rome,
rue Bernouilli, exactement, voilà, à Rome, exactement. Et puis j'ai grandi là, et un jour je lui ai fait une séance d'ostéopathie. Il m'a dit, bon, arrête tes massages,
vas-y direct.
Vas-y. Et il m'a redonné la possibilité de recommencer des études, et c'est là où j'ai fini mon cursus, en fait.
Ah ouais.
Tout en bossant à côté, tu vois, pour payer
everything
ça.
Everything happens for a reason.
Les
connexions permanentes.
Ouais. Et en fait, je remercie la vie et moi-même, finalement, d'avoir osé faire ce truc complètement débile sur le papier, qui était d'arrêter mes études. J'avais plus qu'un an à faire. Après, il y a toute une histoire autour de qu'on a créé une école à l'époque, donc c'était un truc très, très particulier. Mais l'idée, en tout cas, à l'époque, et c'est ça qui était important pour moi, c'était écoute ton cœur. Ouais. Et si ton cœur il te dit ça, même avec le soutien de mes deux mentors principaux, je parle d'hommes parce que qui m'ont soutenu dans cette idée-là, alors qu'ils sont ostéopathes eux-mêmes, c'est grâce à ce choix a priori aberrant que je me suis offert la possibilité de grandir en tant qu'apprenti et de bénéficier plus tard, mais bien plus tard. Je pensais vraiment faire de la musique à l'époque, de leur expérience, du fait qu'ils deviennent des mentors et que je grandisse comme ça sur le terrain, en fait.
Donc, en fait, tu penses que tu as eu vraiment besoin de ne pas être diplômé tout de suite pour te laisser la possibilité d'apprendre encore plus en pratique?
Ouais.
Plutôt que théoriquement, finalement, c'est ça,
d'une certaine
manière,
oui. Ouais. Okay. Oui, c'est plutôt... on peut le dire comme ça, exactement.
Et puis peut-être une peur de réussir.
Peut-être.
Tu vois, c'est un peu ce qui vient, c'est vrai.
Oui, peut-être. Alors, j'ai du mal à répondre à ça.
Tu verras ça en analyse. Mais...
Ouais. après est venue
le syndrome de l'imposteur.
Oui, c'est ça, exactement. Parce que c'est un parcours très particulier.
Et, oui.
Et j'ai eu la chance d'être agrémenté. Ça aurait pu m'être refusé. Et j'ai pas grand monde qui m'a aidé parmi mes anciens de promo parce que je sortais trop du cadre, quoi.
Mais voilà.
Je leur en veux pas. Hein. C'était comme ça. Et puis j'avais un peu perdu le contact. Et puis ils étaient frustrés parce qu'on avait fait un projet ensemble et que je les avais plantés
là où
ils estimaient que ça n'aurait pas dû avoir lieu. Mmh. Mais bon, moi, c'était mon chemin et j'en suis très heureux de ce chemin. Et en fait, je pense, pour aller dans le sens de ce que tu disais, c'est que moi, j'ai découvert le travail des tissus sur moi-même quand j'étais un jeune étudiant.
Parce que tu veux dire que tu t'es
testé
sur toi-même.
Ouais.
Ok, ah ouais.
En fait, il y a quelque part un fil conducteur dans ma vie, c'est que je suis né sourd.
Oui.
On en avait parlé. Et quand.
D'une oreille.
De l'oreille droite, exactement, d'une oreille uniquement. Et j'ai été opéré, puis pour opérer, en fait, il te décolle le pavillon vers l'avant. C'est pas très beau. Et du coup, j'ai une cicatrice qui fait tout le tour. Et un jour, en deuxième année, il y avait un cours sur les cicatrices. Et ça faisait déjà un an ou deux que je fumais des joints tous les soirs. Et j'ai expérimenté, je pense que le hashish m'a aidé, la technique.
Même si c'est mal, évidemment, on n'encourage pas.
C'est mal dans le sens de l'addiction, on est bien d'accord.
Tu as raison de préciser.
Ouais. Et moi, ça m'a permis de développer ça. Et j'ai eu à lutter contre l'addiction plus tard, etc. Mmh. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est vraiment mais c'est un vrai problème d'en parler. Faut savoir à quoi on se confronte quand on se confronte à ça.
Et je fais une parenthèse, mais les addictions sont très fréquentes chez les profils qu'on appelle hypersensibles, TDAH éventuellement aussi, etc. Voilà, c'est très fréquent, donc je sais que
c'est un vrai sujet, quoi.
Voilà,
c'est
exactement.
Un vrai sujet.
Ouais.
Et la drogue a tout son intérêt au jour où on a réussi à à partir du moment où on a réussi à s'en libérer.
S'en libérer.
Et c'est ça qui est fort. Mais à l'époque, ça m'avait quand même bien aidé. Et ça a immédiatement travaillé, en fait. Les tissus étaient tellement...
malléable.
Torturé, que la réponse est faite tout de suite et le fait d'être et émetteur et récepteur m'a beaucoup appris en fait et j'ai travaillé ça.
C'est fabuleux, je pensais pas qu'on pouvait mais c'est logique.
C'est possible, en tout cas moi c'est ce que j'ai découvert.
Pendant la formation, ils vous y encouragent pas
du tout.
Non,
c'était vraiment une initiative très personnelle, quoi. Wow. Je me suis dit, j'ai une cicatrice, et en fait, je me suis rendu compte de la tension qu'il y avait à cet endroit à partir du moment où je me faisais violenter par mes collègues et mes confrères et consoeurs, parce que on se traitait les uns les autres, pas du tout d'un point de vue holistique. C'était de la technique, donc c'est un désastre. Mais bon, on est jeune, donc ça passe. Et à partir de ce moment-là, j'ai réalisé qu'en fait, tu pouvais accéder à ça tout simplement par ta sensibilité, en fait. Et par, je pense, le fait que les tissus étaient vraiment torturés par l'origine ou les origines inconnues de cette surdité et les opérations qu'on suivit par ailleurs. Et à partir de là, j'avais la base pour travailler. J'avais ma substance à développer, en fait. Et du coup, c'était pas conscient, mais peut-être que je me suis permis de jongler de l'un à l'autre entre la musique et l'ostéopathie parce que j'avais déjà quelque chose entre les mains. Mmh. Et pour répondre à ta question, c'est un peu long, j'avoue. C'est que grandir en tant qu'apprenti était bien plus riche pour moi que de faire des études très scolaires. Parce que on a tendance en ostéopathie à vouloir ressembler au médecin et on oublie le cœur de notre métier qui est la pratique, quoi. On l'oublie en partie, en tout cas.
Tu vois, c'est drôle parce que je fais vraiment le parallèle avec, par exemple, l'architecture où, pareil, enfin, il y a énormément de techniques, des longues études, etc. Et à partir de quel moment tu arrives à te décoller du style, par exemple, de tes mentors, de tes inspirations, et de créer ton propre style. Mais toi, c'est exactement la même chose. Comment tu crées ta propre main, comme l'œil d'un photographe, comme etc. Je trouve que c'est très intéressant de faire le parallèle entre toutes ces pratiques. Encore une fois, je disais que tu n'étais pas artiste, mais que si, tu l'es, évidemment. Et puis même rien qu'avec la musique, mais pas seulement. C'est-à-dire que ce que moi, j'apprécie, et j'ai lu, on va en parler, parce que tu as beaucoup d'avis sur Google. Je crois que tu as menacé tes patients.
Je les ai tous menacés, physiquement.
Mais on va en parler, justement, parce que j'ai récemment interviewé Nina Senoyer, qui est rédactrice web SEO, donc qui est spécialisée dans le référencement, justement, naturel sur les moteurs de recherche.
Il faudrait que je lui parle.
Bah oui. Déjà que ton site soit en ligne, mais il le sera pour la diffusion.
Bientôt, c'est promis.
Ça fait, je ne sais pas, des mois, des années qu'on en parle de ton site.
Ça fait 2 ans que je suis dessus.
C'est ça.
Mais je suis lent, moi.
Ouais, en tout cas, il arrive bientôt. J'ai eu la chance de lire des textes en amont, donc je connais déjà un peu tout ton contenu qui est très intéressant. Mais je reviens sur l'histoire des avis Google, parce que c'est aussi ce qui fait ta spécificité. Tu as 5 sur 5, mais tu as une quarantaine d'avis. Mais en fait, tous les patients qui ont en tout cas donné des avis, et moi, ça fait, je crois, plus de 15 ans qu'on se connaît, sont des patients de longue date. Et donc, c'est vrai que je trouve, pour l'aspect un peu business, entre guillemets, que même si ce n'est pas le mot, mais quand même, mais de développement, toi, de ta patientèle, je trouve que c'est intéressant parce qu'on vient te voir pour un problème. Mais évidemment, d'autres découlent. Et puis toi, tu creuses, tu as vraiment cette démarche qu'on appelle holistique, c'est-à-dire très globale, de vraiment aller étudier, questionner. Tu poses des questions, justement, mais et tu es très à l'écoute de nos réponses. Et puis, tu vas un peu guider, tu vois. Ah tiens, et peut-être que... Mais ce que j'apprécie et ce que j'ai lu sur les avis Google, c'est un peu la même chose pour tout le monde, c'est que tu n'es pas didactique, tu n'es pas, tu ne forces pas à faire ou ne pas faire, tu vois, voilà. Non, tu t'adaptes aussi.
Que Dieu m'en garde.
Mais c'est, je trouve que c'est très intéressant. Moi, par exemple, j'ai d'autres praticiens, dont d'autres, voilà, qui peuvent parfois te dire, non, alors il faut arrêter ci, il faut arrêter ça, et puis en gros, t'arrêtes de vivre, t'arrêtes de kiffer. Moi, je suis vraiment une kiffeuse, donc j'ai du mal quand on me dit, par exemple, il faut arrêter de manger du sucre, par exemple, je suis très gourmande. Alors que quand on me dit, écoute, tu sais, ça, ça a tel effet. Voilà. Et là, c'est tout à fait différent. Et c'est exactement ce que, la façon dont toi, je trouve, tu travailles. Et deuxièmement, comment tu fidélises, pour un peu du jargon commercial, mais voilà, pourquoi on revient te voir ? Est-ce que toi, tu sais ? Moi, je sais pourquoi je reviens te voir, mais tu vois, est-ce que toi, tu sais ?
Oui, parce que je pense que c'est dans ma démarche, déjà. Et... avant de devenir ostéopathe, j'étais patient. Et je reviens à mon oreille avec mon cher ami Didier Cadeau, qui est un ostéopathe de Saint-Germain-en-Laye.
Cadeau, bah, ouais, ça ne s'invente pas comme nom.
Ouais, j'ai choisi tout de suite. Bah, qui était oui. Un prof. Et il y avait cette idée de je veux améliorer mon état, si je puis dire. J'en souffrais pas beaucoup de cette oreille, c'est parce que ça faisait déjà 22 ans que j'avais appris à gérer environnement social, oui, voilà, avec ça, ouais. Quoi. Mais je sentais la tension, etc. Et on a travaillé, j'y allais tous les mois. Donc, en tant que patient, j'ai fait un travail de terrain. Voilà. Et en fait, je parle de cette oreille parce que finalement, c'est le point de départ de mon travail qui m'a amené bien au-delà de cette oreille. Mais c'était le point de départ, quoi, le premier pas. Donc, avant même de commencer à travailler avec des patients, moi, j'envisageais déjà l'ostéopathie comme un travail de terrain. Alors que ce n'était pas si présent que ça en ostéopathie d'une manière générale. Parce qu'en gros, en ostéopathie, moins on intervient, mieux c'est.
D'accord.
D'une manière générale,
c'est un précepte, quoi.
Ouais, c'est ça.
Ok.
Précepte que je ne suis pas forcément.
Parce que tu sors du cadre, évidemment.
Ouais. C'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu es apprenti, ouais. Que tu n'es pas collé à une école ou à une pensée, et que tu as déjà une base à travailler, ben tu es là pour t'inventer, quoi, pour expérimenter. Et mes expériences de professionnel m'ont beaucoup aidé à forger une façon de travailler. Et du coup, j'invite mes patients à revenir. J'invite à faire un travail de fond. Parfois, il m'arrivait même à une époque d'être frustré, entre guillemets, avec un patient qui disait « Non, mais ça va. » Je dis « Ben non, t'as encore mal. » Mais il fallait que j'apprenne à respecter ça, parce que dans cette idée, encore une fois, que moi, mon travail, c'est d'accompagner mes patients à être un peu plus tous les jours, si je puis dire. Et j'explique à tous mes nouveaux patients que mon travail n'est que, d'un point de vue holistique, d'optimiser la qualité des mouvements, d'une articulation, d'un organe, d'émotions, d'idées fixes, etc. Et tout ça rentre en jeu parce que l'holistique, c'est l'holistique, quoi. Il n'y a pas d'holistique que physique. On est des êtres humains. Et ça passe beaucoup par le verbe. Et donc, je libère des tensions qui font partie de leur équilibre pour ramener le mouvement. Et du coup, moi, mon boulot, c'est de faire ça, mais forcément, ça les met en déséquilibre.
C'est cette fameuse... Moi, je vois un peu le parallèle avec quand je fais sortir de la zone de confort, mais qui est ou de la zone d'inconfort, mais qui est confortable. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que même si on a parfois des patterns, des choses où on sait qu'on souffre ou qu'on a des difficultés, mais on y reste parce que c'est ce qu'on connaît. Et donc, c'est la même chose que tu es en train d'expliquer pour ces douleurs.
Absolument. Ouais. C'est vraiment ça. Et ça, on retrouve ça dans le monde de l'entreprise. Je fais souvent le parallèle avec des chefs d'entreprise. Je leur dis, voilà, vous changez 2-3 éléments dans l'équipe. C'est pas juste ça qui va changer. C'est l'ensemble. C'est l'ensemble de l'équilibre qui change. Et du coup, mon boulot, c'est de permettre aux patients de définir un équilibre plus mobile, Donc a priori plus juste, mais c'est pas moi qui le détermine. Ouais. C'est pour ça que je vais pas te dire d'arrêter le sucre. Je vais appeler à ta responsabilité. Ma responsabilité, hein, ability to respond, responsibility, j'aime bien en anglais, c'est d'appeler à répondre. Enfin, c'est d'appeler.
Je l'avais jamais entendu comme ça, mais j'adore.
C'est Sadhguru qui disait ça.
Ah, je sais pas si que je le connais. Connais. Ouais.
Et j'ai entendu ça il y a 4-5 ans. Je me fais ah ouais merde, mais j'avais jamais vu.
Ah, j'aime beaucoup.
Ouais, c'est l'habilité à répondre, hein, la responsabilité.
Très, très juste.
Et c'est pareil en allemand, c'est pareil en anglais. Et c'est beaucoup plus fort, parce que lui, il dit on est responsable sans limite. Alors, t'as un mec dans le public qui dit bah, comment ça, moi, je suis pas responsable du mec qui fout le feu à une maison, je sais pas quoi. Il dit t'es responsable. Qu'est-ce que tu fais? À quoi tu réponds? T'as quelqu'un qui est par terre dans la rue
qui est pas bien. Non assistance.
T'es médecin, t'es pas médecin. T'es médecin, t'y vas. T'es pas médecin, t'appelles. Il y a trop de monde, tu passes ton chemin. Enfin bref, c'est ton habilité à répondre qui est mise en jeu à chaque instant de ta vie, quoi. Donc, j'oublie jamais, je pense, au sein de mon cabinet, que j'ai des responsabilités.
Ouais.
Et que je dois être capable de répondre.
Et aussi d'encourager le patient à être responsable.
Oui.
Voilà, c'est-à-dire c'est que ça. C'est vrai, parce que tu sais très bien que le chemin, bah, si on ne le fait pas nous intérieurement, de toute façon, tu peux faire toutes les manips que tu veux, ça pourra peut-être aller mieux sur le moment, mais évidemment, les mauvaises habitudes, postures, etc., reprendront.
Oui, exactement. Ouais. Et c'est là où, quand tu, en tant que patient, tu prends la responsabilité de te prendre en main et de ne pas estimer que l'ostéopathe va te soigner, et ben, c'est là que tu peux vraiment commencer à avancer.
C'est
l'idée. Et ça passe par des souffrances. Hein. Moi, j'ai des patients, ils sont moins bien après. Pendant quelques jours, j'en ai un avec qui je communique encore là, qui allait moins bien et qui ne veut pas continuer parce qu'il souffrait trop. C'est une des grosses difficultés, en ce qui me concerne en tout cas de mon métier, c'est qu'on remet les choses en jeu. Quoi. On ne donne pas des antidouleurs. On est à propos de travailler. On n'est pas là pour être soigné.
Ouais.
Dans ce sens.
C'est quand même du soin dans le sens anglais de care.
Ouais,
en fait.
Ouais, c'est ça. C'est sauf qu'en français, ça fait soigner.
Oui.
Ça marche
pas. On nie soigner.
Ouais.
Ah, mais je ne l'avais pas entendu non plus. Ouais. On est à fond avec Lacan là dans cette discussion.
C'est la langue des oiseaux. Mais bon, après, c'est des jeux de mots, si je puis dire. Mais l'idée étant vraiment d'accompagner au plus près de ce qu'un patient est prêt à entreprendre, si je puis dire. Okay. Dans le respect de là où il en est, de qui il est, t'as encore mal là, ça te dérange pas, voilà, moi je suis disponible.
Et tu vois, justement, il y a quelques personnes là, dans les avis que j'ai lus qui disaient, par exemple, j'y vais entre 2 à 4 fois par an, voir Grégor. Et moi, c'est à peu près ça aussi. C'est-à-dire qu'on se rend compte que parfois aussi, c'est de l'entretien.
Ouais.
Comme tu sais, comme t'emmènes ta voiture au garage pour la révision, c'est exactement la même chose.
C'est la même idée.
Et c'est justement aussi d'éviter d'aller trop loin et d'avoir vraiment trop mal pour prendre rendez-vous en urgence. Parfois, ça peut arriver. Mais cet entretien, je trouve qu'il est très intéressant. Et tu parlais tout à l'heure du monde de l'entreprise, mais je me demandais aussi si tu travaillais l'ergonomie, par exemple, des postes de travail ou pas du tout. Est-ce que tu peux donner des conseils, tu vois,
sur la posture.
Voilà, toi déjà, alors t'as un siège à un ballon.
Un ballon Bloom.
Voilà, voilà, ça c'est
faut que je refasse la pub parce que c'est la première fois que j'en fais.
Mais c'est super, c'est très confortable et ça permet de justement maintenir finalement toujours une posture assez...
Ouais, d'être alerte en fait sur ta position.
Exactement,
et pas
s'avachir.
Trop te vautrer.
Tu vois, du coup j'en parle et hop, je me redresse.
Pareil, moi aussi.
Voilà, exactement, parce que c'est quand même très important d'avoir ça et j'imagine qu'avec le... on a eu les confinements, le Covid, etc. On en parle régulièrement, mais j'ai l'impression que c'est plus un questionnement de citadin. Mais est-ce que tu as vu une évolution dans le soin, pour le care, que les gens apportent justement à leur bien-être, à leur ergonomie, les postes de travail à la maison, avec tout, il y a eu beaucoup, de plus en plus de télétravail, etc. De temps aussi pour soi. Est-ce que tu as noté, toi, une évolution chez tes propres patients de tout ça?
Oui, il y a eu une évolution, effectivement, dans la notion de prendre un peu plus de temps. Mmh. Et ça leur a été offert aussi avec le télétravail. Et j'ai des gens qui viennent maintenant les jours de télétravail, mmh. qui sont plus disponibles, qui peuvent venir dans la journée. Et puis peut-être plus de questions en fait sur la qualité de vie. Et en même temps, en parallèle, une baisse de patientèle où il y a eu moins de monde. Alors parce que on est en surnombre en ostéopathie.
Ben oui, on en parlait tout à l'heure. Il y a quand même une grande concurrence.
Il y a une concurrence énorme maintenant. Et c'est comme ça. Hein. Et puis, je ne sais pas si c'est encore des alors c'est beaucoup moins présent, hein, mais si c'était des séquelles du confinement, etc. Et puis Paris s'est un peu vidé. Moi j'ai des patients que j'ai plus revus à partir de.
Et oui, qui sont vraiment partis.
Ouais,
voilà.
Qui sont barrés, ouais. Qui sont allés vivre dans leur maison de campagne et qui ont scolarisé leurs gamins là-bas.
Trop bien.
C'est très bien. Et moi je suis plutôt. Je trouve ça très chouette de reprendre un peu le pouvoir, avoir eu la possibilité de remettre en question sa vie, quoi, son mode de vie, etc. Donc ça, c'est intéressant.
Et alors donc, tu parlais d'un peu d'une baisse de patientèle. Alors qu'est-ce que tu mets en œuvre, là pour le coup, en tant qu'entrepreneur individuel, pour redynamiser un peu ton activité?
Justement, j'ai travaillé sur ce site qui n'existe pas encore, mais qui est presque, mais qui m'a pris du temps, et tant mieux, parce que ça a été un vrai. C'est quand même vachement intéressant de
se questionner, de se poser, c'est de l'introspection
et d'écrire aussi, surtout, avec des gens qui regardent et qui disent, qui te coachent. Hein, j'ai été vachement coaché, t'en as fait partie, pour essayer d'être clair dans mes propos et pour me remettre en question dans mon travail et être capable vraiment d'expliquer et déterminer un peu là où je veux en venir, en fait. Et donc ça, c'était très intéressant. Et puis, c'est pas pour rien non plus que c'est des patients de longue date qui ont laissé des avis, parce qu'à l'époque, moi, j'en avais 3. Mmh. Ce sujet ne m'intéressait absolument pas, j'en avais pas besoin, c'était un autre monde. Par des amis ou des patients dans la communication, j'ai compris que c'était quand même important maintenant. Et j'ai demandé à des patients qui me connaissaient. Je leur ai suggéré l'idée de me laisser des avis.
Avec le couteau sous la gorge.
Avec un gros couteau sous la gorge. Ils ne pouvaient plus bouger.
Voilà.
Et ils l'ont fait.
en toute liberté, sans emprise.
Évidemment. Mais c'est ça qui était chouette. C'était que je savais que c'était des gens qui me connaissaient. Que s'ils le faisaient, c'était pour le coup.
Leur bon vouloir et sincère.
Oui, c'est ça, et que c'était sincère.
Et avec le recul, finalement, aussi nécessaire. Je pense que tu vois, parfois tu sors d'un resto, tout de suite tu dis c'était génial, t'as pas besoin de tant de recul que ça, mais avec l'ostéo t'as quand même besoin d'avoir un peu aussi, tu peux pas écrire tout de suite en sortant, déjà t'es un peu cassé quand même, faut le dire, et il faut justement ce temps de réparation. En général on parle, enfin voilà, il faut quelques jours, semaines,
on le ressent au début, mais
bien sûr, mais globalement mais ça continue.
C'est ça le travail.
Voilà.
Et là, ce qui est intéressant dans les avis, pour beaucoup d'entre eux, c'est que c'est des personnes qui ont fait un vrai travail de fond qui témoignent d'années ou de mois de travail, en fait.
Et alors, t'es assez humble, mais il y a notamment, alors quand on Google ton nom avant de tomber sur ton site, qui n'est donc pas encore, je le rappelle là maintenant,
qui arrive,
donc Grégor Schultz, on voit très vite toutes les photos de ton cabinet, etc. Enfin voilà, t'es bien référencé sur Google pour le coup, parce qu'il y a beaucoup d'avis, et on tombe aussi sur un article de Lily Barbery Coulon.
Qui me connaît depuis longtemps.
Qui, elle, est quand même très connue, enfin pour certains, mais je veux dire.
Mais je ne savais pas à quel point elle l'était.
En fait, tu n'en avais pas conscience peut-être, mais. Et alors, est-ce que. Donc, elle a écrit un très bel article où elle explique justement que pour elle, au début, l'ostéo, bon, c'est un peu le truc. Parfois, on y croit ou on n'y croit pas. C'est un peu comme la cartomancie de mémoire, elle parle un peu de ça, etc.
Et puis, elle parle d'il y a 15 ans, je pense.
Et c'était ça.
Ça fait 12 ans que je suis là, elle est déjà venue au cabinet précédent.
Ça fait très longtemps, sa première, son premier rendez-vous avec toi. Mais elle dit déjà tout ce sentiment de pas que tu mets pas la pression. Je paraphrase, mais son article est assez, très détaillé. Elle parle évidemment de ta bienveillance, de ton écoute, etc. Mais vraiment, et finalement, je pense que c'est ce qui rassure aussi. notamment les nouveaux patients. Et puis, bah, je reviens sur ce bouche à oreille parce que c'est essentiel. C'est-à-dire que si tu es recommandé par un tel, par un tel, par un tel. Et alors elle, comment est-ce qu'elle est venue à toi ?
Alors elle est venue à moi parce qu'elle a écrit... en fait, elle travaillait pour le Vogue à l'époque.
Oui, je crois.
Je ne sais plus quel est le magazine. Et en fait, c'était John Galliano qui faisait soit, qui était rédacteur en chef.
D'un numéro spécial.
Oui, je crois que c'est ça.
Ouais, ouais.
Ou alors dans la régie beauté ou soins, etc. Et lui parle de moi. Je l'ai suivi longtemps, John.
Voilà, quand même, pardon.
Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. À l'époque, elle était encore journaliste.
Voilà.
Elle n'avait pas changé de métier.
Tu as beaucoup travaillé dans les défilés aussi.
Oui.
Ça, c'est génial.
Oui, pareil. En fait, j'ai rencontré un homme, Christophe Robin.
Voilà, grand coiffeur.
Premier coloriste
voilà, qui est d'ailleurs a développé une énorme gamme de soins pour les cheveux depuis, qui a beaucoup de succès.
Qui a beaucoup de succès et qui avait... il a arrêté maintenant. Il y a encore son salon, mais bref, lui vit une autre vie maintenant, mais il a énormément travaillé en tant que coloriste, avec une clientèle extrêmement, de haut de gamme, quoi.
Ouais.
Et comme à l'époque, j'avais été chauffeur pour mannequin, j'étais allé voir les agences pour leur dire, voilà, je développe mon truc, j'étais au début. Hein.
Donc voilà quand même comment tu as commencé,
finalement. On m'a parlé de Christophe Robin. Et j'ai eu mis un peu de temps à le rencontrer. Non, je l'ai appelé, mais bon, voilà, le mec, il est occupé, on lui envoie beaucoup de gens, je pense.
Ouais.
Et puis, il a fini par accepter un massage, parce que je faisais des massages aussi à l'époque. Et il m'a adopté. Et il m'a dit, écoute, voilà, maintenant ça va se passer comme ça, avec toute sa bienveillance. Hein, ça a été un coach aussi, Christophe.
Et alors, qu'est-ce que tu faisais ? Tu étais dans son salon ?
En fait, au début, je le traitais lui, puis je le voyais toutes les semaines, etc. On faisait ostéopathie et on réglait pas mal de problèmes de douleurs chroniques, etc. Et il a fini par me demander de venir au salon. Et je massais les pieds de ces dames, principalement, parce qu'il y avait surtout des femmes. Et donc, toutes les comédiennes, etc.
Est-ce qu'on peut parler d'un nom ou est-ce qu'on n'a pas le droit ?
Mais je ne sais pas.
Ah ouais, peut-être pas.
Elle a parlé de moi dans un article, donc je pense qu'on peut en parler, mais c'est une grande comédienne française.
C'est notre grande comédienne. Qui a notamment joué Bernadette, voilà. Comme ça, on ne fait pas de
name-dropping. C'est très moche.
Non, mais c'est génial, je trouve que c'est... Parce que c'est ce que dit Lily Barbery-Coulon dans son article, notamment, elle dit... Voilà, j'avais peur de tomber sur l'ostéopathe des stars, parce que ça pourrait presque être un peu ça, je veux dire, tu vois, de travailler dans les défilés, donc Galliano, Marc Jacobs aussi, je crois.
En fait, j'ai travaillé pour Vuitton.
Vuitton.
À l'époque de Marc Jacobs, j'ai eu la chance, par encore une autre personne, mais à travers le monde de Christophe Robin, ils m'ont demandé une fois de venir le masser. Lui, son assistante et la personne qui m'a appelé. Et ils m'ont dit, reviens demain. Et je suis resté 2 semaines et ils m'ont appelé sur chaque défilé. Et quand ça s'est arrivé, j'ai fait... je crois 2005 à 2018, un truc comme ça.
C'est
énorme. Donc je pensais faire une saison, 2 saisons. C'était super bien payé. C'est ce qui m'a tout de suite assis dans mon nouveau métier, tu vois.
T'en parles pas du tout. T'as en effet cette humilité. Et donc, ce que dit Lily Barbery, c'est vraiment, je m'attendais à tomber chez un mec un peu star, presque un peu diva. Voilà. Et non, j'arrive dans un petit cabinet qui paye pas de mine, le local poubelle.
Voilà. C'est ça.
C'est génial. Et finalement, je pense que c'est aussi ça ce qu'on aime chez toi. C'est cette grande discrétion. Tu vois, par rapport à un peu toutes les personnes. Et donc, ça fait partie de ton éthique. Parce que justement, tu n'es pas là pour faire du name-dropping. Moi, je te pousse un peu, c'est rigolo. Parce que je suis comme ça. Mais ça n'est pas ça qui te motive. Parce que toi, en fait, tu t'en fiches pratiquement de...
Alors, je peux pas dire que je m'en fichais. Le jour où madame m'a appelé...
Ouais.
Tout à coup, j'ai eu la gorge hyper sèche. J'étais quand même jeune ostéo. Et j'ai ravalé ma salive et je me suis dit OK.
Ouais.
Et extrêmement gentiment, on a commencé à développer une relation qui date, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans maintenant. Et c'était une chance extraordinaire. Et pour moi, c'était une chance surtout. C'était pas une preuve de qualité.
C'est intéressant, ouais, ça.
Je l'ai plus vu comme une opportunité à saisir. Mais avec le temps, je me suis dit bon, ben ça va. J'assume cette opportunité.
J'ai continué longtemps. Et ça met pas un peu plus de pression?
Si. Ça a été extrêmement formateur.
Mais ouais.
Je faisais des nuits blanches parfois.
Ah ouais, j'imagine. Parce que ça peut te faire ta réputation, mais ça peut te défaire aussi, justement.
C'est ça, exactement. Alors, on n'avait pas encore tant les réseaux sociaux, début 2000, mais je savais à quel point ça allait vite. Et après, tu as les salons, ça allait vite, quoi. Mais sans penser au fait que ma carrière débutante soit détruite, c'est juste une pression importante parce que c'est des personnes qui ont des grosses personnalités qui ne connaissent pas forcément ton métier. Hein,
donc, il faut faire un peu de pédagogie.
Ouais,
aussi,
et puis en même temps, quelque part, tu es un peu tranquille. Moi, il m'est arrivé quand on me dise fais gaffe, c'est une grosse relou celle-là, tu vas être galère, que ce soit les employés de Christophe, etc. Et ne me rendre compte que parce qu'elle comprenait rien à mon métier, qu'il n'y avait rien dans le sens esthétique du travail,
qu'il n'y avait pas d'a priori
de mon travail, qu'il n'y avait pas d'a priori.
Donc ça
c'était assez facile à gérer. Et le massage, il fallait juste qu'il soit qu'il leur plaise.
Agréable,
quoi.
Et donc
voilà, a priori, ça leur plaisait. Donc ça a continué pas mal de temps comme ça. Mais c'était ni un objectif, ni une consécration, ou quoi que ce soit. Ce qui était sympa à l'époque, c'est de me dire, tiens, c'est de rapidement vivre de mon métier. De me dire, tiens, si ça arrive, c'est peut-être que tu es vraiment à ta place, quoi.
Et je voudrais un peu aborder la question du prix. Tu vois, j'en ai parlé notamment avec Ismery, qui est une coiffeuse, enfin Hair Lover, que j'ai interviewée, c'était en l'épisode du 15 septembre 2023 de mémoire. Et on a parlé notamment de ça et le fait qu'il y a une différence légère, mais une différence tarifaire entre une coupe avec Ismery ou une coupe avec une autre personne de son équipe, ce que je trouvais très légitime justement. Ils ont fait un post justement sur Instagram pour annoncer de l'évolution tarifaire qu'ils étaient obligés de répercuter, l'électricité. Enfin, il y a beaucoup de choses à prendre en compte quand même parce que les charges augmentent. Mais toi, par exemple, ton tarif, il est un peu plafonné. Et je crois que tu as un peu de mal à passer une certaine barre psychologique. Mmh. Et donc, je voulais parler de ça avec toi et de savoir, là, je reviens à l'entrepreneur, comment tu gères ça? Est-ce que tu as réussi peut-être à est-ce que il va y avoir un nouveau tarif avec le site, peut-être? Est-ce que c'est l'occasion?
Ah tiens, j'avais pas pensé. Pas con.
Ouais,
parce que je note, il est noté le prix sur le site. Ça devait se faire en 2022. J'avais décidé, je sais pas pourquoi, parce que j'avais augmenté mon prix en 2017, qu'à chaque élection présidentielle, j'allais changer.
Et puis je pense soit la personne qui gagne.
Puis en fait, comme ils m'ont tous déprimé, je crois que j'ai arrêté.
Ouais, c'est ça.
Mais en 2022, on était
post-Covid,
c'était compliqué. Même pour moi, il y avait un peu moins de monde. Donc, j'étais peut-être moins
enclin à augmenter.
Confiance. Ouais. Et puis, une séance d'une heure coûte 90 euros aujourd'hui. Moi, j'ai augmenté de 10 euros à chaque fois parce que j'augmente rarement, mais j'augmente pour ne pas avoir à gérer des pièces. Et passer à 100 euros, c'est peut-être une barrière psychologique que j'ai du mal à gérer. Sachant que j'ai de la chance d'avoir assez bien géré mon petit business, si je puis dire, parce que j'ai acheté ici, j'ai renégocié mon prêt, j'ai la chance de pouvoir louer une pièce maintenant, et dans l'ensemble me coûte moins cher qu'un ostéopathe qui loue un cabinet, etc. Même si j'ai fait des travaux, etc. Mais je peux le gérer plus facilement. Et je me suis dit que si j'étais honnête avec moi-même, j'avais peut-être pas forcément besoin d'augmenter tout de suite. Et puis, tout simplement, je pense que j'étais pas prêt. Alors, est-ce que ça va venir avec le site ou est-ce que ça va venir l'été prochain ou dans un an?
Est-ce que t'as
Je sais pas.
C'est génial.
Mon truc, c'est que je vis déjà bien de ce que je fais. Est-ce que j'ai forcément besoin?
J'adore,
c'est un truc
cette réflexion.
Sur lequel j'ai beaucoup joué, l'argent, à l'époque, du name dropping, etc. J'étais payé par Vuitton, Yves Saint Laurent, des différentes maisons que j'ai fait. vraiment cher, quoi.
Ce qui te permettait aussi d'appliquer un tarif beaucoup plus abordable pour ta patientèle en cabinet absolument. Aussi. Moi, je trouve ça assez juste, hein, finalement.
Et le domicile était cher. J'en fais, mais c'est devenu très, très cher pour ne plus en faire. Donc, j'en fais rarement. Mais même à l'époque, ce n'était pas donné. Et j'estimais que... il y avait la possibilité de venir au cabinet. Alors, pas pour les massages, parce que ça, j'en fais pas au cabinet. Mais pour l'ostéopathie, tu pouvais venir ici et profiter du tarif cabinet. Mmh. Et si tu estimais que ça méritait d'être fait à domicile, ça venait avec le prix. C'était une autre façon de voir les choses. Et je me suis adapté aussi à la psychologie, je ne sais pas comment dire, la façon d'aborder de personnes qui voient énormément de noms, de thérapeutes, de coiffeurs, de machins, de gens différents à leur service. C'est qu'en fait, si tu coûtes cher, tu vaux. Ben voilà. Ou alors plutôt, c'est ça. Ouais. Si tu n'es pas assez cher,
t'es pas bon.
C'est que tu n'en vaux pas la peine, c'est que tu n'as peut-être pas confiance en toi, etc. Et ça, ça a été un de mes premiers coachings, soit à la hauteur de tes ambitions, entre guillemets, ou en tout cas de l'ambition de tes patients.
Exactement.
Et c'est ça qui était assez intéressant et ça fait partie de cette formation, hein, finalement. Mmh. J'ai beaucoup appris avec cette patientèle que je n'aurais pas fait avec une autre, au-delà du fait, en plus du fait que c'était beaucoup de pression, que c'était des articles, j'ai tout un book d'articles, mais ça pour moi c'est du passé. C'est pas ça l'important.
T'es pas le genre de personne qui a ce fameux book dans ta salle d'attente.
Non, enfin, voilà, là, derrière, il est planqué là-bas.
Ouais. Je l'ai jamais vu. Donc,
non, mais personne l'a vu.
Mais non.
Personne l'a vu.
Mais j'aime bien ça chez toi.
Ouais. Voilà. Mais parce que je me dis que. Enfin, moi je crois en l'invisible. Je crois, c'est en moi ça, ça fait partie de mon histoire, donc ça m'arrive d'en parler, et ça m'arrive d'en parler, mais de manière très sporadique, dans une situation avec un patient qui connaît un tel, ou je ne sais quoi d'autre, mais c'est pas, je pense pas que ce soit forcément. J'aime bien l'humilité, quoi, en fait, simplement. Et j'ai pas essayé de développer tout ça. Je serais pas ici, Christophe.
Tu serais pas caché.
Si tu vas à République, caché dans une cour, même si lui était caché dans des cours. Hein.
c'est très chic.
Ouais, exactement.
Voilà, on n'a pas envie d'avoir pignon sur rue dans ce genre.
Lui, c'était un peu son truc. Le premier salon qu'il avait rue du Mont-Abord, c'était deux belles pièces en rez-de-chaussée.
Voilà, if you know, you know. Si tu es initié,
tu peux y accéder. Exactement. Et ça, c'était assez chouette. C'est comme ça que. Pas que ça, c'est plein de choses qui fait que Christophe il en est arrivé là où il en est aujourd'hui. Mais si j'avais voulu développer cette patientèle, j'aurais dû m'installer de l'autre côté de la Seine.
Oui.
Bon, déjà, je pouvais pas acheter là-bas.
et puis c'est pas toi, finalement, c'est ici,
chez moi.
Exactement.
Ça fait partie de mes quartiers, quoi.
Ouais.
Donc, je préfère largement être à propos de qui je suis que de qu'est-ce que je pourrais représenter, en fait.
J'adore. C'est très beau ce que tu dis. Et ça me fait un peu. Ça me rappelle une phrase que m'avait dite Laurent Cotta, qui est conservateur au Palais Galliera, en charge des arts graphiques. Et je lui parlais de l'ambition. Tu vois, notamment, après ce poste de conservateur, qu'est-ce que tu vises? Est-ce que tu es directeur de musée? Il me dit, non, mais moi, j'ai aucune ambition, en fait. Ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier, je suis très heureux là. Et c'est comme ce que tu me disais tout à l'heure aussi sur, je vis bien. Et j'aime beaucoup parce que c'est vrai qu'on a un peu cette course perpétuelle, aux chiffres, à la réputation, à la reconnaissance. Mais en fait, bien vivre aujourd'hui, c'est quoi? C'est ça, c'est avoir un rythme qui reste en accord avec son bien-être, ses besoins, ça me parle pas mal vu qu'en ce moment, j'ai un petit truc de santé qui me ralentit volontairement. Et c'est parce que j'ai très bien compris que c'est parce que je voulais encore trop. Je voulais encore aller trop vite, trop loin. Parce que j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de projets et que j'ai vraiment envie. Mais il y a un moment, on se calme un peu. qui va piano, va sano, ouais. Et lontano. Ça, c'est une, j'en profite, c'est une petite dédicace à deux personnes. Ils se reconnaîtront en l'écoutant. Top.
La vie nous appelle à ça, à chaque fois.
Mais ouais. Elle nous, chaque en fois, tout cas, elle, nous, et elle nous rappelle. Ouais. Moi, j'ai besoin de reminders. J'ai vraiment besoin de petits... des trucs genre attention, j'en suis... Et ça, je le dis justement avec l'humilité qui ne m'étouffe pas. Mais justement, il y a des moments où je suis obligée justement de ralentir, de reprendre un peu pied.
Ouais. Et je crois que c'est important. Et moi, ça fait partie de mon métier. Mm. C'est d'accompagner mes patients. L'idée de parler à des chefs d'entreprise, de déléguer leur travail. Qu'est-ce que c'est difficile. Dès le début de mon travail, ça a été présent. Et ça, c'est qu'une première approche de surface, ça, parce qu'il y a beaucoup de choses derrière tout ça, chez chacun d'entre nous. Mm-hmm. Et travailler l'être, c'est ça. C'est ça, une thérapie holistique. J'ai une thérapeute, là, il y a deux jours, qui me disait, mais vous êtes ostéopathe, mais vous n'êtes pas...
Pas que.
Ouais. Et non, je suis thérapeute en fait. Ma base de travail, c'est le corps, parce que c'est ça qui me parle le plus.
Mais. Oui, c'est vrai que c'est ton terrain.
C'est mon terrain d'approche. Et puis c'est la raison pour laquelle viennent mes patients. À moi d'avoir la capacité de leur offrir la possibilité d'aller plus loin. Donc mon ambition, elle est plutôt là. C'est plus moi j'avance et plus je peux amener les personnes. Loin, si je puis dire, quoi. Et c'est une ambition discrète, mais c'est une ambition réelle et qui est bien plus passionnante que d'être le thérapeute de John Galliano, etc. Qui voilà, comme beaucoup d'entre eux connaissent pas forcément l'ostéopathie. Mais voilà, c'est pas facile de travailler l'être avec des personnes célèbres.
Ça.
C'est hyper compliqué, quoi. Alors, je pense que je manquais de maturité à l'époque, à mon niveau et dans mon relationnel à des personnes célèbres, parce que c'était un monde que je ne connaissais pas.
C'est vrai que c'est de la pratique.
Ouais, c'est de la pratique. Et, et puis, quand tu es censé rentrer dans le fond des choses, c'est touchy,
c'est délicat.
Parce que c'est des personnes... voilà, de public, quoi.
Voilà, donc très secrète.
Ouais. Et moi, j'ai plutôt joué sur le côté secret et c'était quelque part un peu frustrant, finalement. Peut-être que cette époque-là de name-dropping, parce que mes potes étaient au courant, etc., m'a suffi et que j'en ai plus besoin maintenant. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le fond du travail, quoi. Parce que c'est ça le cœur du métier.
Et je vais, avant de te poser la dernière question, je vais clore un peu là-dessus en disant, en effet, moi qui t'ai vu aussi évoluer, parce que moi je t'ai vu grandir aussi, ouais, tu m'as vu grandir, mais je t'ai vu grandir aussi, vraiment, en plus de 15 ans, c'est incroyable. Et en effet, déjà tu as pris dans cet aspect très holistique, c'est-à-dire global, et d'un peu aller tout voir et de ne pas se cantonner à une chose. Mais je t'ai vu aussi vraiment gagner en ancrage, je trouve, tu vois, même postural, mais de ton être finalement, vraiment. Et c'est quand même ça que tu travailles beaucoup aussi, l'ancrage, forcément. Donc,
c'est essentiel à notre métier.
Ouais, ouais.
Pour tout thérapeute, je pense.
Tout accompagnant, finalement.
Ouais, je suis pas pieds nus pour rien, pour l'image. Ouais. Hein, le fait d'être au rez-de-chaussée et d'être pieds nus n'est pas anodin. Et c'est le point de départ de plus je suis ancré, plus tu peux t'appuyer sur moi. Et plus je peux être à ton service. Et moins je subirai aussi les affres de la vie de chacun.
Et oui, c'est important ce que tu dis. Comment essentiel. Se protéger aussi parce ça. Que c'est vrai que tu prends.
Bah, c'est ça.
Tu vois, t'absorbes, tu enlèves le mal, tu traites énormément d'informations dans une journée, parce que tu vois quand même beaucoup de patients en une seule journée.
Et puis énormément d'émotionnel.
Et donc d'émotionnel, tout ce que tu prends. Et il y a un vrai travail entre chaque patient, d'ailleurs.
De prise de notes.
aussi, évidemment. Mais toi aussi, de nettoyage énergétique, presque.
Bien sûr. Ouais. Alors parfois, tu as des patients avec qui tu ne parles pas et c'est bien.
Ouais. Enfin, c'est pas moi.
Tu laisses juste, c'est pas toi. Mais tu laisses juste le corps travailler, ouais. Tu le suis, tu l'écoutes. Et, parce qu'il y a beaucoup de patients que je ne vais pas plus interroger que ça. Mm-hmm. Parce qu'ils ne sont pas là pour ça et c'est à moi de m'adapter. Mais...
En fait, c'est comme chez le coiffeur. Si on ne veut pas parler, on n'est pas obligé de parler. C'est ça. Je précise.
Ouais. Exactement. Et les coiffeurs ont quelque chose de thérapeutique.
Mais bien sûr,
réellement.
C'est pour ça que je parlais d'Ismérie ouais, tout à l'heure.
Oui.
Bien sûr.
Elle est thérapeute. Oh, oui. Christophe l'était aussi. Il écoutait tellement les gens. Ouais. Donc c'est à toi d'être disponible. Et plus tu es ancré dans l'être que tu es, plus tu es solide. Donc plus tu es protégé, en fait. Tout simplement. Et puis plus tu plus ben voilà, plus tu peux permettre à l'autre de travailler.
Alors justement, ce dernier mot, je pense qu'il va te venir tout de suite, parce que j'aime bien que chaque invité donne un peu un dernier mot sur lequel il a envie de conclure l'entretien. Donc,
qui me viennent tout de suite, ben non, ça ne marche pas du tout, ton
affaire. Tu vois, je sais pas, je pensais que tu allais dire ancrage pour le coup, tu vois.
Oui.
Mais là, c'est pas du jeu, c'est moi qui
l'ai donné.
Non, ce qui
me vient, parce que pour moi, il y a quatre lettres dans mon métier, c'est enfin, dans la vie, c'est d'être.
Très bien.
C'est tout, on est là. Ce qui nous incombe, comme me disait Jean Assens, un grand maître du tarot et qui était un sacré psychanalyste, ce qui nous incombe, c'est être. Et le travail, c'est d'être un peu plus tous les jours. Et pour ça, il faut mourir à beaucoup d'autres choses.
Waouh. Merci, Grégor.
Avec grand plaisir. Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de prolonger la discussion, n'hésitez pas à me contacter par email lbm@lilibonnet.com, sur LinkedIn ou sur Instagram. Et si, comme moi, vous trouvez que ce podcast mérite d'être encore plus écouté, alors pensez à le partager sur les réseaux ou à l'envoyer aux personnes qu'il pourrait intéresser. Et aussi, abonnez-vous, écrivez des commentaires, spread the love, mettez des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. J'en profite pour remercier Philippe Drevet pour la composition de la musique originale de ce podcast et pour la réalisation de chaque épisode. On se retrouve le 15 du mois prochain. Et d'ici là, n'oubliez pas que everything happens for a reason.